Bon, vous voyez ce que c'est que la diaspora des goyim. Okay. Et dès l'origine, nous voyons que l'histoire offre à tour de rôle à chaque nation d'essayer. Okay. Et chaque nation à tour de rôle, ça s'explique chaque fois par les conditions historiques, économiques et tout ce que vous voudrez, qu'il y a une nation qui est la figure de proue de ce problème, elle reprend le problème, et puis qu'est-ce qu'elle fonde ? Finalement, un empire. Vous avez remarqué ? Et qu'il n'y a pas d'exception. Et que la société juive, depuis qu'elle va apparaître avec les Hébreux, traverse tous ces empires. Et là, nous aurons à étudier essentiellement l'histoire de Joseph en Égypte, comme modèle. Vous voyez ? Chaque fois, les Juifs sont Joseph. C'est-à-dire, on se met au service. Et de cet empire-là, on fait un sommet. Et dès que c'est fait, antisémitisme, Joseph dans la fosse, vous voyez ce que je veux dire ? Échec. Vous avez remarqué cette dialectique ? Il y a une fascination des Juifs de jouer à Joseph. Ah, la situation se passe là-bas. Eh bien, c'est notre tour. C'est à nous. Allons-y. Okay. Et vous voyez comment ça se passe. Pardon ? Non, non, ça c'est quand les Juifs se mettent au service de l'universalisme, modèle déposé Goy. Après, je parlerai de l'universalisme hébreu. Ah oui, fasciné. Mais Joseph y a cru. Il a abandonné sa famille, sans donner de nouvelles. Vous n'avez pas remarqué, si vous avez lu la Bible, hein, sans donner de nouvelles. Il s'est déguisé en Égyptien, et puis il s'est mis au service de l'Empire égyptien. C'est lui qui a organisé l'Empire égyptien. Et ce Joseph-là, on peut l'appeler Disraeli pour les Britanniques, Léon Blum pour la France, etc. Hein. Et il y en a eu un seul qui est resté authentiquement hébreu. C'est le Joseph de la Bible, qu'on appelle Yosef HaTzadik, c'est pas pour rien. Okay. Mais nous avons eu beaucoup de pseudo-Joseph ou de para-Joseph qui ont joué à Joseph. Le plus sympathique d'entre eux dans les temps contemporains, c'était Mendès France. Okay. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis voilà, une espèce de fascination de se mettre au service. Pourquoi ? Parce que formellement, ça ressemble à ce que sera le rêve messianique d'Israël. C'est le même problème qu'il y a à résoudre. Mais aujourd'hui, je voulais vous analyser le phénomène diaspora des goyim et l'impasse, le cul-de-sac que ça représente. Utilisez surtout cela pour notre sujet général, okay, qu'un juif traditionnel a toujours eu conscience aiguë que ce sont les goyim qui sont en diaspora. Vous y êtes ? Et que l'identité hébraïque est hors de cette diaspora, bien que mêlée à elle. Bon, si l'idée est éclaircie, on peut aller un peu plus loin dans ce premier point. Combien il me reste de temps ? Ah ben ça va. Je peux avoir un autre verre de thé ? Oui, mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que cette stratégie d'égoïsme laissée à elle-même n'a pas d'issue. Vous voyez, c'est-à-dire, dès l'origine, l'hébreu sait que les empires des goyim s'amènent à l'échec. Et vous remarquerez que l'un après l'autre, ces empires disparaissent. Okay. Ils déposent dans la mémoire de l'humanité un style de cette tentative et ils disparaissent. Et c'est toujours la même tentative qui se répète dans des styles différents. Alors, selon la tradition juive, enfin, selon la tradition talmudique, disons, Israël a traversé quatre empires. Je donnerai souvent des listes un peu différentes suivant les problèmes, mais grosso modo pour aujourd'hui. Les empires, ça s'appelle les Malchouyot. 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 Malchout. Malchouyot. Le pluriel, ok ? Et vous les suivrez, là, vous avez des schémas dans votre livre. Okay. Alors, il y a d'abord Babel. Vous suivez ? Babel. Babel, c'est l'empire d'où Abraham est sorti. Et à ces malchouyot, à ces grands empires, vont correspondre les exils d'Israël. Mais je vous laisse pour le moment la liste des exils. Babel, c'est la grande civilisation mésopotamienne d'où Abraham est sorti. Ensuite, Paras. Paras, c'est quoi ? La Perse, le grand empire perse. D'où qui est sorti ? Mick, j'ai entendu. Ezra, très bien. Ezra qui fonde le Beit Sheni. Finalement, Mitzrayim, c'est une annexe de Babel, d'où sortira le peuple hébreu. Mais cette histoire commence à Abraham qui finit à Moïse. Okay. C'est la même. Mitzrayim, c'est une colonie, enfin une colonie. Un peu comme l'Amérique est une colonie de l'Europe. Okay. C'est la même, c'est une annexe, la civilisation de Babel. Mais vous mettez Abraham-Moïse, si vous voulez. Ça sort de là. Donc. Et ensuite, le grand empire perse, Ezra, qui a fondé le Beit Sheni. Okay. Ensuite, et Paras, avec comme annexe Madaï, les Perses et les Mèdes. Les Perses et les Mèdes, Madaï. Il y a encore des descendants de ces gens-là, enfin, actuellement, dans l'Iran contemporain. Bon. Mais vous savez, cet empire perse a été énorme comme civilisation. Le grand empire perse. Okay. Et ensuite, Yavan. Yavan, c'est l'empire grec. Qui est sorti de l'empire grec ? Rome. Non, non, qui n'était pas là. Abraham sort de Babel. Ezra sort de. Avec ses juifs. Okay. Ezra sort de. Paras. Yavan. C'est l'époque de quoi ? Judas Maccabée. Très bien, Matatiaï. Les Maccabées. Bon. Non, je parle de. Qu'est-ce qui se passe en Israël ? Les Maccabées. Hein? Et après, Edom, c'est-à-dire Rome. Et qui est sorti de Rome ? Oui, oui. Nous, tout simplement, nous sommes en Chine. C'est... Oui, les juifs contemporains, enfin les Israéliens, quoi. Ouais. Herzl. Herzl, oui. Il faut qu'on, quand même qu'on commence à parler de lui un jour. Non, c'est rare. Quel livre ? Livre de qui ? Vraiment ici c'est facile d'aperçu alors. C'est possible. Vous voyez la correspondance ? Voilà ce que je voudrais vous montrer très rapidement. Vous voyez, Abraham sort de Babel, Ken, et puis finalement Babel qui est une civilisation énorme, rentre dans la préhistoire, etc. Ça veut dire que nous vivons un événement de cet ordre et que tout se passe comme si les Juifs quittant Rome, ça signifie que Rome va rentrer dans la préhistoire. Et d'ailleurs, dans les sous-exils, il se passe toujours la même chose. Rappelez-vous l'Espagne. L'Espagne, c'est une situation colossale. Okay, les Juifs sont sortis d'Espagne, etc., etc. L'Égypte, les Hébreux sortent d'Égypte, le musée. Bon, nous aurons à nous demander de quoi il s'agit. Tout ça, on va l'apprendre en détail. C'est faux de dire qu'ils n'ont pas été appréciés. Il y a un stade où ils sont appréciés. Et après, ils sont très dépréciés. Okay. Alors, je vais vous donner la suite, mais nous reprendrons la prochaine fois. Il nous reste 10 minutes, oui ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Bon, la suite de l'analyse. Nous verrons qu'à partir d'Abraham, et ça nous permettra ensuite d'étudier le deuxième point, les différentes doctrines qui expliquent la dispersion. À partir d'Abraham, va apparaître une identité humaine qui, en tant que nation, est universelle. Et c'est ça l'identité hébraïque. Tu vas ajouter encore ça à ta liste. Comment ? Remarquez bien une chose. Quand vous cherchez l'idée de l'universel chez l'égoïme, alors vous remarquerez qu'elle n'est authentique que lorsqu'elle se rattache, lorsque tel ou tel membre d'égoïme se rattache à l'universel par l'idéologie, mais non pas par son identité nationale. Vous voyez ? L'égoïme se rattache à la notion de l'universel par l'idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, par une dimension abstraite d'adhésion à une doctrine, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit politique ou qu'elle soit religieuse. Vous suivez ? Par exemple, la prétention à l'universel du christianisme. Mais ça se passe dans les églises. Il n'en reste pas moins que le chrétien est ou italien, ou anglais, ou espagnol, ou portugais. Ce n'est pas par sa réalité nationale qu'il est relié à l'universel. C'est par une dimension idéologique, qu'elle soit, encore une fois, religieuse, politique ou philosophique. Vous suivez ? Le cas particulier de l'hébreu qui va apparaître dans le récit biblique, c'est que c'est qu'en tant que nation qu'il est relié à l'universel. Alors c'est quelque chose que l'égoïme pressente, mais qu'il n'arrive pas à comprendre, par définition, parce que ça n'entre pas dans le cadre de leur propre conditionnement. Vous suivez ? Et c'est pourquoi ils accusent la nation hébraïque, surtout lorsqu'elle est dispersée, du contraire de l'universalisme, le cosmopolitisme. Oui. Là, apparaît une autre catégorie qui est très importante. Et c'est l'accusation que nous allons faire finalement aux diasporiques. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Des cosmopolites. S'ils refusent la catégorie de la nation hébraïque. Vous suivez ? Bon. Alors va apparaître donc une nation. Tout ça, c'est encore sous forme de postulat, nous aurons à le lire dans le texte et à l'identifier dans la réalité historique. Va apparaître une nation qui a une sorte de capacité universelle en tant que nation. Indice, la diaspora juive. Les juifs peuvent être n'importe quel autre homme. C'est un cas particulier de l'histoire. Un juif peut être français, il peut être corse, il peut être suisse, il peut être tout ce que vous voulez. Et il l'est passionnément. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre exemple de société humaine qui soit dans ce cas. Vous suivez ? Ça veut dire que les juifs ont, de leur origine hébraïque, une capacité universelle. Un juif peut arriver à être authentiquement sud-africain, authentiquement hollandais, authentiquement argentin, authentiquement corse, authentiquement yéménite, authentiquement syrien, etc. Vous voyez ? C'est un cas vertigineux. On est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte qu'il se passe là quelque chose de bizarre. Okay.
Et souvent, la mission d'Israël, comme père, depuis un certain nombre d'années, ça doit être peut-être une notion d'universalisme réussi, plus ou moins. Parce qu'en fait, si on veut voir le nationalisme juif dans différents pays, on le retrouve ici en Israël, celui-là venant de quel pays, plus ou moins de l'autre. Et si on parle une même langue, déjà.
Oui, tu vas un peu trop vite. Okay. Tu vas un peu trop vite. Enfin, on se dirige un peu vers là. Okay. Mais voilà ce que je veux dire, pour aller un peu plus lentement. Vous voyez que l'identité hébraïque est, en tant que nation, de capacité universelle. La preuve, les juifs. Ça a l'air paradoxal, hein ? La preuve, les juifs de la dispersion. En tant que d'origine hébraïque, voilà qu'ils ont cette capacité, finalement, de se faire prendre pour des Grecs, des Romains, des Italiens, tout ce que vous voudrez. Hein ? Vous voyez ? Vous suivez ? C'est un phénomène exceptionnel. Tout se passe comme si nous avons dans notre génétique des gènes universels. Et chaque fois, celui qui correspond au paysage ressort. Vous suivez ? Okay. C'est un cas particulier. Quelle que soit l'explication qu'on donnera, le fait est à part. Le fait est massif. Tu suis ? Parce que finalement, aucun autre peuple n'a réussi ce tour de force. Si je... C'est clair ? Bon. Et alors ? Ce fait-là, l'égoïme n'arrive pas à le comprendre, et les juifs assimilés ne le comprennent pas non plus. Ils le nient, et tombent dans ce que je vous ai appelé le cosmopolitisme, qui est l'échec de l'universalisme hébreu. Vous suivez ? Bon. Est-ce que c'est clair ? Alors, je vais vous décrire maintenant un mécanisme Et puis on aura terminé sur cette analyse. Ken.
Le peuple tzigane ne
vit
pas.
Non. Je ne sais pas comment dire. Ça imite. Ça ressemble. Effectivement, tu as raison de poser cet exemple. Ça ressemble. C'est aussi un peuple qui est en exil, mais qui est, je ne sais pas comment vous dire, c'est un peuple errant, mais qui est coupé de ses racines et qui est, dans les faits, cosmopolite, qui ne représente pas une nation. En fait, nous savons plus ou moins que c'était des chrétiens de la région des Balkans qui ont été d'une région qui était à la fois Roumanie, Transylvanie et Hongrie, et qui ont été réduits en esclavage par les musulmans, et qui ont pu s'enfuir, et qui ont perdu complètement le lien de leurs racines. Bon. Ça ressemble, mais c'est un phénomène à qui il manque plusieurs des dimensions du phénomène hébreu, comme nous le verrons. Les Juifs se sont toujours identifiés par rapport à une terre d'origine et à une culture ancienne et à une nation d'origine. Alors voilà donc ce qui se passe. Va commencer une histoire que je vais vous brosser à grands traits de cette stratégie à partir d'Abraham l'Hébreu pour résoudre le problème de la Pelaga, de la diaspora universelle. Premier stade, la dispersion. L'identité hébraïque va se greffer sur les différentes nations. Et apparaît une identité de symbiose avec le paysage. Nous avons toujours été dans la dispersion des judéos quelqu'un d'autre. Des judéos quelqu'un d'autre. Apparaît une identité mixte qui est l'identité de dispersion. Vous suivez ? Deuxième stade, le retour. Et dans le retour, c'est là que je rejoins un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Yaakov, dans le retour, les Juifs se rassemblant en Israël, enfin à Sion, à Jérusalem, ramènent avec eux la manière d'être goy sur laquelle ils étaient greffés. Donc c'est par délégation des Juifs que l'humanité s'unifie à Jérusalem. Ça, c'est la dimension messianique de l'histoire d'Israël. Est-ce que vous suivez ? Non. Vous allez suivre. Je vais décrire sans interpréter ce qui se passe dans l'histoire de la dispersion juive, hébraïque, qui est greffée en symbiose sur la diaspora humaine. Okay. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Premier moment, l'exil. À partir d'Israël, les communautés juives vont se greffer sur les paysages des goyim, des nations. Et dans tous les cas, un juif a toujours été judéo quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le juif à l'état pur. Okay. Vous voyez ce que je dis ? Alors que l'hébreu est un hébreu à l'état pur. Mais quand il entre dans la phase diaspora, il devient judéo quelqu'un d'autre. Vous suivez ? Bon, c'est la première phase de l'exil. Judas Lévi a donné comme image les battements du cœur. Diastole, systole. C'est comme ça qu'il s'appelle. Okay. Oui, l'exil, c'est la diastole. Israël va vers les nations et s'imprègne de la manière d'être homme de chaque nation, par le paysage. Si c'est par les hommes, alors il y a assimilation et disparition. Okay. Deuxième stade, le retour. Et dans le retour, qu'est-ce qui se passe ? Les Juifs reviennent et ramènent avec eux la manière d'être homme sur laquelle ils ont été greffés. Donc, tout se passe comme si le problème insoluble au niveau des goyim est délégué à une nation particulière, créée pour cela, et qui le résout en laboratoire. Vous suivez ? Et alors, le drame, c'est quand on croit qu'on est encore dans la diastole, alors qu'on est déjà dans la systole. Voilà, c'est ce qui arrive au judaïsme contemporain. Vous suivez ? Hein ? Contemporain, non, de la Gaule. Vous voyez, les Juifs avaient toujours conscience que l'allée était en vue d'un retour. Et on a oublié le deuxième moment. une espèce de division du travail, de spécialisation du travail qui fait qu'on ne comprend plus la suite du programme. Vous suivez ? Alors on attend un messie fictif, mythique. Okay. Hein ? Il s'assimile, oui. Le signe que le temps de l'exil a fini, c'est l'assimilation. Okay. Là, je vais vous dire, on n'a plus beaucoup de temps, je vais vous dire en tête de chapitre, mais on reprendra ça la prochaine fois. Vous voyez, je vais vous continuer l'image de Judas Lévi. Judas Lévi parle d'Israël comme le cœur de l'humanité. Et alors, si le cœur ne fonctionne pas, l'humanité a le cœur bloqué, elle a mal au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle perd le souffle. Okay. Parce que le cœur ne fonctionne pas. Il s'est arrêté dans la diastole. Alors elle se venge, parce qu'elle a mal au cœur. Vous voyez que c'est grave. Okay. Je parle de l'humanité qui se venge. Okay. Copernic. Alors les juifs disent qu'ils ont mal au cœur, mais c'est l'égoïme qui a mal au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, je reprends le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un sens messianique à la dispersion des juifs, à condition qu'on n'oublie pas le retour. Ça, c'est vrai. Et chaque juif ramène avec lui la manière d'être homme qu'il a connue dans l'exil et l'a fait participer au salut d'Israël. Voilà, très grosso modo, le plan messianique à partir d'Abraham, dont la Torah nous raconte l'histoire. Pendant ce temps, les goïms font les malchouyotes. Vous voyez ? Vous suivez ? Ça y est, c'est clair ? Je vais vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien. Le phénomène messianique de l'universel humain, c'est le phénomène qui se passe dans la municipalité israélienne. C'est-à-dire des hommes de tous les horizons culturels se rassemblent et s'unifient. Ces hommes sont des judéos quelqu'un d'autre. Okay. Mais s'ils étaient que le quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas de municipalité. Si c'était des goïms qui se rassemblaient dans une municipalité, elle n'existerait pas, cette municipalité. Vous avez compris? C'est pourquoi dans la municipalité israélienne, il y a des problèmes graves. C'est les problèmes de l'humanité entière. Seulement, comme ils sont par délégation des juifs, il y a un espoir que ça s'arrange. Est-ce que c'est compris? Bon. C'est pourquoi les problèmes sont sérieux. Mais, je ne sais pas comment dire, si je vous raconte les différences originaires qu'il y a dans la maison où j'habite, à Jérusalem, alors là, il y a un Américain du Nord, là, il y a un Irlandais, là, il y a un Écossais, d'ailleurs, mon voisin de palier, c'est un juif écossais, un homme charmant, d'ailleurs, et chaque fois qu'on se rencontre sur le palier, on éclate de rire en hébreu. Lui, il voit un Français, moi, je vois un Écossais, je ne sais pas si vous réfléchissez. Il faut vous habituer à cela, Ken. Et puis, en bas, il y a un Yéménite, et puis, ces mêmes hommes, s'ils n'étaient pas juifs, il n'y aurait pas de maison. C'est ce qui se passe dans le vaste monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Alors, voilà ce qui se passe. C'est ça qu'il faut arriver à découvrir. C'est que, au moment du retour, les juifs ramènent avec eux les différentes manières d'être hommes et doivent défendre les intérêts des goyim d'où ils viennent. C'est pourquoi il y a un jeu, une épreuve de force dans la société israélienne. Et finalement, ça finira par s'unifier. Mais il n'y a que dans cette société-là que ça peut s'unifier parce qu'ils sont juifs. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ils sont partis hébreux et ils reviennent juifs. Alors il y a un espoir. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait un mariage mixte, comme je vous l'ai peut-être dit. Ma femme est polonaise, juive, rassurez-vous. Alors imaginez fabriquer une famille avec un Algérien et une Polonaise. Alors, et puis ça se passe à des milliers d'exemplaires dans le monde juif. Bon. Et alors il y a des affrontements de génies humains. Mais qui s'affrontent? C'est les goïms qu'il y a derrière. C'est pas les gens. Alors si on les laissait s'affronter tout seuls, l'ONU. Comme c'est par juifs interposés, les enfants vont bien grâce à Dieu. C'est ça l'histoire. Alors c'est ça qui se passe dans l'histoire juive. C'est-à-dire la solution de la pelaga insoluble chez les goïms. Vous avez compris donc quel est le problème de la diaspora? La diaspora, c'est la diaspora des goïms. La diaspora juive n'est que provisoire et seconde greffée sur la diaspora des goïms en vue du retour qu'on appelle la geoula. La geoula, la délivrance. Bon. Après, je vous reprendrai tous ces thèmes-là en les enrichissant, mais pour le moment que vous ayez la vision générale, c'est clair. J'essaie de vous faire comprendre cela. C'est avant d'être un problème de religion, le messianisme juif, c'est un problème historique. La municipalité israélienne comme telle est messianique. Est-ce que c'est clair? Bon. Ça veut dire que dans le juif israélien de l'avenir, que le prophète appelle le fils de l'homme. Et vous voyez pourquoi le fils de l'homme? Le fils de l'humanité tout entière, par matrice juive interposée. Vous suivez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, finalement, il y a des ingrédients. Et chacun lutte pour les ingrédients qu'il représente. Les juifs francophones luttent pour l'identité française, plus ou moins inconsciemment, parce qu'ils la portent avec elle. Les juifs anglais, pour les britanniques, etc. Et ces jeux de force, quand vous serez dans la société israélienne, vous verrez que c'est un problème réel. Il y a des espèces d'affrontements d'identité entre juifs. Mais quelles sont ces identités qui s'affrontent entre juifs? L'égoïsme. Seulement, dans la municipalité israélienne, il y a une chance. À l'ONU, il n'y en a pas. Vous comprenez? Alors, la société israélienne est pleine de problèmes. Mais c'est des problèmes de l'universel humain. Au moins, il y a les problèmes. Ailleurs, il n'y a même pas les problèmes, parce qu'il n'y a pas de société. Et De Gaulle avait raison en disant les nations désunies et pas les nations unies. Okay? Et vous voyez qu'il y a un conflit entre l'ONU tout entière et Israël. Passer où ça, où ça? Vous voyez à quel niveau ça se passe? Je pense que c'est clair. Okay? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, heureusement, c'est la dernière. On est à la fin du 4e empire, il n'y en a pas 5. Et c'est pourquoi l'affrontement est tellement gigantesque. Okay? Tout se passe comme si l'humanité est en train d'engendrer l'Israël et elle a peur de ça. Parce qu'elle risque de mourir en couche. Vous voyez ce que je veux dire? Okay? Et c'est clair. Bon. Et c'est ça que nous vivons. C'est tellement énorme qu'on ne le voit pas. Et il vaut mieux ne pas le voir. On le vit, mais il vaut mieux pas voir de quoi. Mais je vais donner un petit exemple, puis on va s'arrêter là parce que vous avez cours dans 5 minutes. Et on a l'habitude dans la maison où j'habite, à Souka, de faire une Souka collective. Et alors chacun décore son coin avec ses décorations d'origine. Alors imaginez la scène et le kiddush du premier soir de la Souka où, avec une ferveur extraordinaire, chacun à tour de rôle chante son kiddush avec l'accent goy d'origine. C'est messianique par définition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors derrière l'écossais, vous voyez, une belle tapisserie avec les moutons d'Écosse. Voilà. Et je dois vous dire qu'ils sont mieux nourris que les moutons d'Algérie. Et etc. Alors vous avez tout ça. Et c'est la vie. C'est pas dans des églises, c'est pas dans des états-majors de partis, c'est pas dans des réunions de politiques. C'est dans la vie des hommes. Et on voit l'unité humaine se faire à travers les juifs. Vous avez compris de quoi il s'agit? Est-ce que c'est clair? Alors, bien sûr, ça se passe à l'échelle du pays, et c'est plein de problèmes. Parce que c'est le seul pays où l'Orient et l'Occident s'affrontent dans le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le seul pays où les différents siècles culturels s'affrontent dans le pays, et dans des problèmes municipaux. Okay. Mais c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. C'est-à-dire que c'est un laboratoire. Si ça réussit ici, le bon Dieu fait passer tout le monde. Oui, grosso modo, nous sommes délégués, chacun... Alors vous voyez que les Juifs français ont une grande responsabilité vis-à-vis de la France. Faire leur alliance, hein, c'est pour le bien de la France. Okay. Vous avez compris ce que je n'ai pas voulu dire. Okay. Bon, eh bien je vous...
Cours communauté, cours 4.
Le problème de ce qu'on pourrait appeler la signification ou la vocation ou la fonction, plus exactement, de la diaspora. Okay. Il me semble que la semaine dernière, vous avez vu vos notes. Il me semble que la semaine dernière, nous avons envisagé, d'ailleurs, je ne sais pas très bien, mais je ne sais plus très bien. Nous avons envisagé, non, c'était la fois d'avant, d'accord. La fois d'avant, nous avons envisagé l'idée d'une explication de la diaspora comme mission. Oui, mais je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Et ça nous était paru, un peu sous ma direction, un peu invraisemblable. Okay. Qu'est-ce que c'est que cette mission de la diaspora? et dont l'explication devrait aussi expliquer tout ce que le peuple juif a passé à travers 2000 ans d'exil et de diaspora. D'une certaine manière, ça fait pas le poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en tout cas, je nuance tout de suite un petit peu, mais nous allons reprendre ça après vos études historiques de la diaspora, que vous étudierez ce qu'ont été les grands âges d'or des grandes communautés. On est familier à l'âge d'or d'Espagne, mais dans toutes les juiveries, comme on dit en langage sociologique, il y a eu un âge d'or où effectivement cet aspect de la... C'est pas grave. Comment dire, une transmission de valeur de la part de la communauté juive vis-à-vis de la culture ambiante, et réciproquement d'ailleurs. Je veux dire, ne vous trompez pas, chaque juiverie a eu ce qu'on appelle son âge d'or. L'âge d'or d'Espagne, c'est resté dans les mœurs, l'expression, mais par exemple le judaïsme polonais, qui a été un judaïsme extraordinairement vivant, et il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a été énormément persécuté, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et le judaïsme marocain, le judaïsme babylonien, le judaïsme égyptien, le judaïsme espagnol, bien sûr, portugais, hollandais, enfin, il y a eu même l'âge d'or du judaïsme français, c'était à l'époque. Rachi. L'école de Rachi. Rachi était le maître, mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Le Rachi, c'était un de nos plus grands maîtres. Et il y a eu ce qu'on appelait le judaïsme français, le rite français qui a disparu, mais qui a existé. Aujourd'hui, les juifs en France sont ou de rite ashkenaz ou de rite sfarad, mais il y avait le rite français, le marzor vitri. Enfin, vous apprendrez tout ça en bio. Et certains des disciples de Rachi ont été anoblis. Par exemple, il y a les commentaires du sire de Koussi. C'est un authentique tosafiste, okay, dans les Tosfot. Ou le sire de Chinon. Okay. Chinon, Koussi, vous voyez, c'est le nom de la féodalité. Bien, donc il faut nuancer. Il y a eu des époques, évidemment, où cette théorie, cette explication de la mission de transmission de valeur a une base. Mais de notre temps, on perçoit très mal qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Vous suivez? C'est surtout ça que j'avais analysé il y a deux cours. Et puis, la semaine dernière, le thème central, si je me souviens bien, c'était de comprendre la diaspora en la resituant dans un double mouvement. Je vous ai cité Judas Lévi, le cœur, oui, vous vous rappelez de cela, les battements du cœur, dans un double mouvement, Galout, Geoula. Et là, bien entendu, nous avons une vision beaucoup plus vaste de ce problème d'histoire du peuple d'Israël, tant en tant que peuple hébreu que par la suite en tant que peuple juif, en tant que nation hébraïque que par la suite en tant que peuple juif, et nous étions arrivés à une analyse du phénomène la municipalité israélienne. Vous vous rappelez de cela, okay? Alors je vous rappelle ça très, très brièvement. Dans l'allée d'Israël vers les nations, quelles que soient les causes immédiates qui font que Israël va vers les nations, est ce que nous appelons la diaspora, la dispersion. Et ça peut être des causes catastrophiques. Israël est détruit. Alors, soupape de survie, les Hébreux, les Juifs vont ailleurs. Okay. Mystère, ils ne disparaissent pas. Alors que les lois, sauf les Gitans, par exemple, ou d'autres cas de ce genre, c'est toi qui avais dit. C'est la même chose. Il y a trois branches, les Gitans, les Tziganes et les... Okay. Gypsies aussi. Hein? C'est le même phénomène humain, mais dans des styles de culture vis-à-vis des continents qu'ils ont traversés un peu différents. Mais c'est le même phénomène. Et alors, l'allée d'Israël vers les nations fait exister l'identité juive. Historiquement, c'est le mot qui va. L'identité juive qui a toujours été une identité mixte, qui s'est connue comme provisoire jusqu'à l'émancipation. Ils sont apparus des idéologies secondes qui tentent de légitimiser cette identité juive. Cette identité juive a toujours été une identité mixte. Qu'est-ce que c'est? Au minimum de double identité. Je prends par exemple mon cas personnel, que je connais un petit peu. Je me suis un jour amusé à faire le parallélogramme de force dans la région du monde où je serais vraiment moi-même, si je tenais compte de tous mes facteurs culturels. Bon, l'Algérie, et je me sens très bien en Algérie, enfin, je me sentais chez moi. Bon, par un côté de ma personne. Je suis de culture judéo-algérienne, de base. Bon, chacun d'entre vous a son équation de base. Okay. Les Juifs, c'est comme ça, c'est une histoire universelle. Et finalement, quand je prie, je sais très bien que le tzlil, le son du ton, de la mélodie de la prière, est algérien d'abord. C'est une prière en hébreu, les mots sont hébreux, mais la manguina, en fait, le véhicule est judéo-algérien. Et encore, vous savez que judéo-algérien, c'est très complexe. Ne croyez pas qu'il y a un type judéo-algérien. Il y en a au moins 70 différents, et très différents les uns des autres. Constantine, c'est pas Alger. Alger, c'est pas Oran. Et surtout, dites pas que c'est Tlemcen. Etc. Benissaf, c'est Benissaf. Et Tizi Ouzou, c'est Tizi Ouzou. On va faire de la géographie. Et la sensibilité est différente, mais à l'intérieur d'une même sensibilité générale, si vous voulez. Tunisien, c'est encore un autre problème. Marocain, il y a 70 Marocains différents. Tunisien, il y en a 4 ou 5. Eux, ils sont privilégiés. Et vous voyez, quand vous parlez de l'Afrique du Nord, imaginez que c'est un monde extrêmement complexe du point de vue des identités juives. Si vous parlez, par exemple, si vous dites à un juif hongrois que c'est la même chose qu'un juif polonais, il vous regardera d'un regard attendri. etc. Un juif roumain, ce n'est pas un juif russe. Et un belge, ce n'est pas un irlandais. Et alors, je veux dire que, en fait, chaque juif, plus ou moins, a une identité mixte de base. Vous suivez ? Bon, en plus, s'ajoute, parce que l'histoire est ce qu'elle est, s'ajoutent des dimensions secondes très importantes. Par exemple, je reprends mon cas, je ne sais pas pourquoi je parle de moi, mais enfin pour donner une carte d'identité est simple. Ça me rappelle ma jeunesse. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, on va vous donner des souvenirs. Et alors, là, il y a des Algériens parmi vous ? Ouais. J'ai rien dit. Alors, rassurez-vous, il n'y a aucun Algérien, il n'y a que des Juifs. Alors, on vient pour vous. Bien. Bon, on pourrait faire la même analyse dans d'autres régions du monde. Je continue. Et là-dessus s'est ajoutée une dimension culturelle européenne et qui est de genre français, mais avec là-dedans énormément d'harmonique espagnole. Et ceci dit, je suis quand même descendant des Hébreux. Bon, alors il en résulte, disons que grosso modo, je suis chez moi à Oran, à Alger, c'est la même chose, à Paris et à Jérusalem. Et c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin, j'ai ma culture. Alors un jour, j'ai fait le parallélogramme des ports, je ne sais pas comment vous dire, pour savoir quel est le point de... J'ai failli couler à pic dans la Méditerranée à côté de la Corse. Et alors, heureusement, j'avais une bouée de sauvetage, le judaïsme. Alors, vous voyez, le problème de l'identité juive, c'est un problème pas simple. L'identité de diaspora a toujours été une identité mixte. Et si je vous raconte l'histoire de mes enfants, parce qu'en plus, il y a la mère, enfin ma femme, et elle, c'est à moitié polonais, à moitié russe, d'ailleurs. Et, enfin, vous voyez, c'est... Alors, eux, ils ne veulent plus chercher à comprendre. Ils sont des Israéliens en hébreu. Ils se rappellent de Paris, tout juste. Et les petits-enfants, déjà, il n'y a plus de problème, des Hébreux. Vous voyez ce qui se passe. Seulement, il y a le passé juif. Alors, nous parlons de ce passé juif. Alors, ce passé juif est une identité mixte, complexe, inévitablement. Il n'y a jamais eu un juif à l'état pur. On a toujours été judéo quelqu'un d'autre. Vous suivez, dès le début, les premiers judéens devenus des juifs, c'était les juifs de Perse, la communauté, la reine Esther, le roi Assuérus. Je parlerai abondamment de cela. On ne peut pas comprendre la diaspora si on ne comprend pas le livre d'Esther. Alors on étudiera ça à Purim. Okay. Et ce n'est pas une histoire drôle, le livre d'Esther. Mais cette identité juive s'est toujours connue comme vulnérable parce que trop complexe. C'est intransportable. C'est intransportable. Puis, par exemple, il y a des tentatives très attendrissantes d'ailleurs. Si on prend le recul israélien, par exemple, dans le cas des Juifs nord-africains, il y a des tentatives de retransplanter ça ailleurs. Le paysage manque. On aura beau manger un couscous algérien sans sel, et ça ne marche pas. Qui est de Sarcelles ? Vous connaissez ? Et c'est, quand je dis attendrissant, ça fait pitié de voir cette énergie. Je connais assez bien Sarcelles. J'ai beaucoup de sympathie pour les Juifs de Sarcelles, d'ailleurs, je dois dire. Et en particulier leur rabbin, qui est un héros, le rabbin Gage. Si vous avez entendu parler de lui, bon, ne me dites pas que c'est un zéro. Un héros. Il faut connaître les gens derrière les apparences. Et je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais enfin, la vérité, c'est la vérité. Et là, vous voyez, c'est le phénomène type du drame de l'identité de diaspora qui est intransportable. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est tout de suite exotique. C'est clair ? Pourquoi c'est vulnérable ? Parce que c'est trop complexe, intransmissible. Ça n'est transmissible que dans des temps de cohérence privilégiés, que dans, à des conditions privilégiées. Toute communauté de diaspora est destinée à disparaître, quelle que soit la forme de disparition. Disparition par l'assimilation, l'assimilation au paysage nouveau, disparition, Dieu préserve, par la persécution, ou, si Dieu veut, par la halia. Mais il est évident que la conscience juive s'est toujours connue comme étant une conscience d'identité en sursis. Je suis en train inconsciemment de vous refaire le Mahamar que j'ai écrit dans Siage. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Ken ? Oui ? Non ? Bon, enfin, vous le lirez. J'ai écrit un petit article il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Je vais simplement à l'avance vous expliquer les mots que j'emploie. Ken ? Or, cette survie, cette sursis, très riche, mais vulnérable parce que trop complexe et intransmissible, a duré 2000 ans. Alors on a fini par s'habituer à cela comme étant un phénomène en soi. On a oublié que c'était un temps d'un mouvement à deux temps. Aller, retour. Vous suivez ? C'est clair ce que j'ai dit là. Et donc, le fait de replacer, le simple fait de replacer le moment diaspora dans la cohérence de l'histoire particulière d'Israël, qui connaît cette dimension de l'exil diaspora, et nous donne une perspective beaucoup plus aisée, beaucoup plus générale, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus claire. Okay. Seulement, voilà, c'est difficile de maîtriser par la pensée, ne serait-ce que par la pensée, de 2000 ans d'histoire et de le replacer dans 3600 ans d'histoire. C'est cet effort qu'il faut faire. La diaspora, l'identité juive de diaspora, est un moment très important de l'histoire d'Israël. Et pas question de la mépriser. Je voudrais que vous compreniez bien dans quel sens je parle. Pas question de la mépriser. Mais il faut l'identifier de façon suffisamment claire pour qu'elle prenne son sens réel. Et à ce moment-là, il se dévoile inévitablement qu'elle s'est toujours connue comme provisoire. Qu'est-ce qui nous cache ce caractère provisoire ? Le longtemps qu'elle a duré. L'habitude. Ça va ? Vous suivez ? C'est clair ? Et cependant, à partir de l'émancipation, est apparu un phénomène de tentative de légitimisation idéologique de ce phénomène de l'identité de diaspora, ce qui fait que lorsque le retour a commencé, l'État d'Israël, on se trouve dans une dialectique d'opposition, alors que ça devait être une dialectique de continuité. Vous suivez ? Voilà comment ça s'est écrit, Christelle. Alors je reviens très brièvement sur l'explication que je vous ai donnée, qui vient de la Kabbalah d'ailleurs, et que c'est surtout le Rav Kook qui nous l'a mis en forme, en se basant sur l'enseignement de Judas Lévi, c'est que l'allée d'Israël vers les nations fait exister une identité mixte. Mais jusqu'à l'émancipation, mixte à plusieurs dimensions parfois, okay, mais jusqu'à l'émancipation, cette identité mixte s'est toujours connue comme provisoire. Dans l'attente du retour. Or, ici, dans l'attente de la possibilité du retour. Or, il s'est produit un phénomène de sublimation où on a confondu l'attente de la possibilité du retour et le Messie de la fin des temps. Vous voyez, une espèce de contamination de l'idée messianique. Et je vais essayer par un raisonnement simple de vous montrer qu'il y a ici un problème sur lequel il faut réfléchir. Nous disons que nous attendons le Messie pour qu'il ramène les exilés. Oui, première proposition. Bon. Bon, on va attendre que le train passe. Nous avons un train, vous voyez. Si on m'avait dit dans mon enfance, ça y est, mon enfance encore, les anciens combattants, qu'il y aurait une fois un train juif, c'était le rêve. Imaginez un train juif. Et alors là, et en fait, l'erreur que l'on commet, mais vous apprendrez ça plus en détail avec un peu plus d'hébreu, l'erreur que l'on commet, c'est de confondre le retour des exilés, de l'exil juif qui se connaît, et où les membres de l'exil se connaissent comme étant des juifs, okay, et les descendants du royaume de Juda, c'est-à-dire deux tribus et demie de l'ancien Israël, okay, et que nous appelons en réalité Shivat Sion, le retour à Sion.